quête spirituelle. La spiritualité.
La spiritualité.
Les médiums. La vie après la mort.
La vie après la mort.
Les auras.
Les auras.
Votre sixième sens.
Votre sixième sens.
La voyance.
La voyance.
Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Enquête Spirituelle. La semaine dernière, vous avez eu droit à la rediffusion de l'émission de Claudine avec qui parlait de la nourriture spirituelle. On a d'ailleurs eu pas mal de réactions, notamment par email.
Aucun commentaire, plus aucun commentaire.
Voilà.
Ça c'est dit, c'est fait, et point final.
Et point final.
Bonsoir.
Comment ça va, Thomas ?
Bah, la preuve, ça va, je suis là. Tout va bien, on peut aller. Et puis ce soir, on a Noël Barbeau avec nous, donc on va en parler dans quelques instants.
Bonsoir Noël.
Qui nous vient de la métropole lilloise et qui va nous parler de l'effet Pygmalion. On a Amy qui est là, bonsoir Amy.
Oui, bonsoir tout le monde.
On
ça
fait.
Oui, ça va bien.
Qui va
bien.
Nous rappeler les coordonnées.
www.enquête-spirituelle.com. Le site de la radio, c'est maxfm.be. Vous descendez un peu plus bas sur la page et vous cliquez sur le lien vers la webcam et le chat en direct.
Voilà, et dans quelques instants, on va écouter Marion avec sa rubrique. Mais tout d'abord, bonsoir Marion.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs.
Tu vas bien ?
Oui, ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Ah bah plutôt, oui.
On t'entend parfaitement bien.
Ah oui, on a l'impression que t'es avec nous.
Ouais, ça me fait le même effet, c'est génial.
Incroyable ça. D'accord.
Alors que là, en fait, je suis dans mon lit sous ma couette. Hein, donc
c'est... Ah bah y a pas que toi qui est dans ton lit sous ta couette là, à mon avis. Je crois que j'en connais d'autres qui doivent y être aussi. D'accord. On nous écoute sous le lit, sous la couette, du côté de Mont-Saint-Barreul aujourd'hui. Et puis on fait un petit coucou à certaines auditrices et auditeurs. On nous écoute alors à Erquin-Gemlis, à Tourcoing, à Orchi, à... C'est plus la peine de dire Marion puisqu'elle est avec nous.
Il y en a plein.
On est en Normandie, on est dans la Côte d'Or, on est partout. Voilà, on a envahi la Terre entière et même peut-être les autres planètes.
Et de quoi tu veux nous parler dans un instant, Marion ?
Alors, dans un instant, je vais vous parler du cerveau, de la fonction du cerveau et de savoir comment l'utiliser pour en tirer le meilleur. Voilà.
Ah ben, à tout de suite pour ta rubrique coaching d'un héros. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
On est parti pour cette première partie de cette émission Enquête spirituelle ce soir. On commence avec Marion. Voilà, c'est bon. On a récupéré, voilà, un petit souci technique. Voilà, je remets tous les micros et c'est bon, tout le monde est là maintenant.
C'est bon, on nous entend. Là, vous n'êtes pas parti là-bas qui nous écoutait. Vous n'avez pas intérêt parce que d'abord on a Marion et après on a Noël. Allez, on attaque avec toi Marion, qu'est-ce que tu vas nous raconter ?
Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième édition de Coaching d'un héros. Les héros, c'est les auditeurs, bien sûr. Je vais essayer d'être rapide ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je voudrais pas empiéter sur le passage de Noël Barbeau. Donc alors, ce soir, je vais vous parler de votre cerveau et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour en tirer le meilleur de vous-même et propager plus de paix dans le monde, parce que c'est le but du héros, hein. Donc alors, être stable dans ses émotions, être serein, être rempli de paix, tout ça, ça procure un sentiment de sécurité aux individus qui sont en contact avec nous. Ce sentiment de sécurité, ça les apaise et du coup, ça augmente leur propre compassion face à la souffrance. Cette compassion, ça va démultiplier leur capacité à faire le bien socialement et ça va accroître leur propre bonheur. Donc ça, c'est une des façons de répandre la paix et le bonheur, rien que seulement par notre attitude personnelle. Donc ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est notre niveau de paix intérieure. On peut le travailler et l'augmenter en soi pour mieux le faire rayonner autour de soi. Alors, être en paix, ça implique d'accepter tout ce qui ne dépend pas de soi. Donc, ne plus être victime de nos émotions négatives parce que, elles, c'est quand même la chose qui dépend de nous, quoi. Donc, tout ce qui est colère, impatience, rancune, frustration, tristesse, anxiété, jalousie, tout ça, on possède en nous le pouvoir de se débarrasser définitivement de toutes ces émotions destructrices. Les bouddhistes tibétains, ils pensent que les émotions sont des aptitudes. Donc, on peut s'y entraîner comme pour tout, comme pour le sport, la musique, la cuisine, que sais-je. Et ils ont raison parce que d'après les dernières connaissances sur la neuroplasticité du cerveau, c'est la structure même du cerveau qui permet d'effectuer tous ces changements. En fait, c'est super important de savoir comment le cerveau il fonctionne si on veut progresser dans la vie, si on veut plus laisser faire par notre vie, plus être malmené, si on veut travailler sur soi et avancer, et ici en l'occurrence trouver plus de paix en soi. Sentir limité par ses défauts. On peut aller au-delà. On peut les dépasser si on le souhaite et si on s'y entraîne. Alors le cerveau, il a cette particularité qu'il est dynamique. Ça signifie qu'il se réorganise chaque jour, à chaque minute. Il est le résultat de ce qu'on fait dans notre quotidien, mais aussi de toutes les pensées et de toutes les émotions qu'on a. Parce que ces pensées, ces émotions, ce sont des activités mentales. L'activité mentale, elle stimule le cerveau. Elle crée des nouveaux neurones, et ça tout au long de la vie, ça a été prouvé jusqu'à 94 ans, mais bon, j'imagine qu'après, ça continue aussi. Donc l'activité mentale, elle crée aussi de nouveaux circuits de neurones dans le cerveau, et elle les renforce ou les affaiblit selon qu'on les utilise beaucoup ou non. Donc en fait, c'est comme marcher dans l'herbe chaque jour sur le même chemin, au bout d'un temps, on dessine un sentier. Alors, comme je viens de le dire, les émotions, l'émotion, c'est une activité mentale. Ça veut dire qu'on a la capacité de recâbler notre cerveau, d'atténuer l'activité mentale dans les régions d'où émanent les émotions négatives jusqu'à ce qu'elles s'atrophient. Et en même temps, on renforce l'activité mentale dans les régions d'où émanent les émotions positives, comme par exemple la compassion, la sérénité, la patience, le bonheur, tout ça, pour les augmenter et les consolider définitivement. Donc en gros, ce que je vous dis, c'est que vous avez les pleins pouvoirs sur votre vie. Que lorsque vous vous laissez aller à déprimer, lorsque vous êtes confronté à un échec, vous faites que renforcer votre capacité à être en échec, vous renforcez votre capacité à être en déprime. Il vaut mieux voir les difficultés un peu comme des expériences qui vont nous permettre de créer plus de paix et de solidité en soi. C'est nécessaire d'accepter ces douleurs. On ne peut pas toujours les éviter, donc il faut vraiment les accepter, les intégrer pour ne pas en rester prisonnier. Il faut s'en servir comme un tremplin pour rebondir toujours plus haut. Ah, je vous fais une petite citation. Exercer l'esprit, ça permet de développer ce qui est sain et de déraciner ce qui ne l'est pas. Alors là, je sens qu'il y a tous les en haleine qui sont là. Mais comment va-t-on faire?
Ah, explique-nous tout ça.
Voilà, bon alors déjà, ça existe de l'entraînement, de la concentration, de la persévérance, des efforts. Mais il n'y a rien qui soit pas à la hauteur des héros que vous êtes. Et dans la forme, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc je vais vous proposer deux méthodes. Donc c'est deux méthodes méditatives. La première, c'est la plus évidente et la plus facile, c'est la méditation de la pleine conscience. Donc c'est quoi? C'est en fait le fait de se plonger dans l'instant présent, d'opérer une attention soutenue sur tout ce qu'on fait à chaque instant, d'observer les sensations qu'on éprouve corporellement, les pensées qui nous viennent, les émotions, sans les juger, juste en les accueillant, en respirant profondément. Donc un peu plus en détail, dans un premier temps, on va observer la pensée comme si elle était extérieure à nous, la colère, la tristesse. Lorsqu'elles surviennent, on les verbalise peut-être pour s'en détacher un peu. Par exemple, je suis en colère, je suis frustrée, je ressens de l'incompréhension, tout ça. Ensuite, petit à petit, on les raisonne, on les imprègne de positivité. Alors, est-ce que c'est si grave? Est-ce que l'événement dépend de moi? Non, peut-être pas, donc j'y peux rien, j'ai pas de contrôle là-dessus. Il vaut mieux que je m'en détache et que je me focalise sur ce que je peux faire avec ça. Et qu'est-ce que je peux trouver comme solution Et puis ensuite, lorsqu'on vit une expérience négative ou contrariante, ou même simplement quand on s'en rappelle une, parce que ça marche aussi, on peut se rappeler un sentiment agréable, par exemple la compagnie de personnes qu'on aime bien, et puis en imprégner la situation présente d'une tonalité positive. Par exemple, en cas de conflit avec quelqu'un qu'on aime bien, on se rappelle que ce qu'il y a derrière, en fait, que l'ami, il vaut beaucoup plus que ce qu'il est à l'instant présent, que c'est pas mon ennemi, qu'il fait beaucoup de choses gentilles aussi pour moi, qu'on passe des moments sympas, qu'il a plein de qualités, tout ça, tout ça. Une autre chose qui est importante dans cette méditation, c'est de se focaliser sur notre respiration. Une respiration qui est profonde, qui est lente, qui est ventrale, parce que la respiration, elle a beaucoup de bienfaits. Elle active par massage interne les vertus du système nerveux parasympathique. Et ces vertus, c'est des vertus qui sont apaisantes, qui sont relaxantes. Donc ça permet de mieux gérer ces émotions négatives quand elles surviennent. Donc ça va rétablir des sensations positives et ça va permettre de les lier à l'émotion négative, d'entraîner une connexion entre les deux et petit à petit de faire prendre le dessus à la positivité pour se libérer de l'émotion négative. Donc petit à petit, la maîtrise va reprendre le dessus. J'ai une autre méthode, c'est la méditation sur la compassion. Donc il y a des expériences qui ont prouvé que la méditation régulière, donc là en l'occurrence par exemple sur le sujet de la compassion, ça permettrait au cerveau d'augmenter sa capacité de compassion et de lâcher prise et de sérénité générale. Ça veut dire en fait que les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation, elles ont un seuil plus élevé d'émotions positives de base et une meilleure capacité donc de maîtrise des émotions négatives au quotidien. C'est des expériences qui ont été faites par l'Institut Mind of Life avec en collaboration avec le Dalai Lama. Lama, c'était très très intéressant. Je vous citerai des références sur le site. Donc voilà, alors la méditation sur la compassion, comment ça se passe? Je vous fais un petit topo. Alors en fait, on pense à quelque chose qui nous émeut et qui nous attendrit profondément. Ensuite, on laisse le sentiment gonfler en soi. Puis on essaye de faire en sorte qu'on puisse faire naître ce sentiment par lui-même sans que d'autres pensées puissent venir le distraire. Ensuite, on se concentre sur l'idée que la souffrance, elle peut se produire n'importe quand. Et on pense que tant qu'il y aura des êtres qui sont asservis et empêtrés dans leurs émotions destructrices, ils mériteront notre compassion. Donc hop, voilà, compassion pour tout le monde, les amis, les ennemis, puis tous les humains, puis tous les êtres vivants, on étend ça à tout le monde. Et hop, voilà, on peut pratiquer... comme on pratique la méditation assis en tailleur, dans un endroit calme. C'est pour ça qu'elle est peut-être moins facile à intégrer au quotidien que la pleine conscience, mais elle est très enrichissante aussi. Alors, comment savoir où on en est dans notre niveau de progression? Voilà, on estime qu'il y a 4 stades de progression dans la maîtrise de l'esprit. Alors, je vous les cite. Alors, il y a l'incompétence inconsciente. Donc là, c'est on se plaint sans se rendre compte que notre réaction est excessive. On se rend compte de rien. Ensuite, on a l'incompétence consciente. Donc on s'aperçoit qu'on se laisse happer par les émotions négatives, mais on n'y peut rien, ça nous met mal à l'aise, mais on a du mal à s'en empêcher. Ensuite, on a la compétence consciente. Donc il y a certains aspects de la réaction qui surviennent, mais on essaye de ne pas les extérioriser, on est irrité, mais on relativise, on essaye de maîtriser tout ça. Et le dernier stade, le stade ultime, c'est la compétence inconsciente. Donc là, la réaction, elle ne survient même pas. Donc tout ça, c'est des petits gestes, ce sont les petits gestes positifs au quotidien, inlassables, qui vont entraîner de grands changements au fil du temps en bâtissant peu à peu des nouvelles structures de neurones dans notre cerveau. Voilà, alors en conclusion, je voudrais vous dire que le cerveau, c'est un outil qui est magnifiquement bien fait. Il nous permet un libre arbitre absolu. Nos seules limites, ce sont celles qu'on s'impose à nous-mêmes, que ce soit au travers de la réalité qu'on décide de se créer, alors consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment d'ailleurs, ou alors au travers des croyances qu'on nous a inculquées depuis notre naissance et dont on n'a même pas idée qu'elles sont fausses. Comme j'ai dit la dernière fois, on est ici pour faire ensemble, pour faire éclater les paradigmes. Donc voilà, donc ce soir, la réflexion qui est posée, c'est de prendre conscience de notre libre arbitre, de savoir qu'on n'est pas du tout emprisonné par nos émotions négatives ou nos traumatismes, et que voilà, entraîner notre esprit, ça permet de devenir plus heureux, de devenir un être humain meilleur. Et maintenant qu'on sait tout ça, ben on va pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire de ces informations et de comment on va les utiliser pour améliorer nos vies et les vies de ceux qui nous entourent.
Non, réfléchis pas, on passe à l'action. On passe à l'action avec tout ce que tu viens de dire. C'est clair que maintenant, oui, je te rejoins exactement dans tout ce que tu viens d'exprimer. Je pense que Noël, d'ailleurs, toi-même aussi, hein, tu rejoins. Hein.
Je rejoins à 100%.
Tout à fait.
Je pense que
très bien,
l'intervention
très
qui va suivre ne va faire que être dans exactement
ouais,
le même sens.
Je pense que ça va être une suite. Hein.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Marion.
Merci, Marion.
Merci. À bientôt.
Et allez, gros bisous à toi. Ciao. Et bonne écoute.
Merci.
À la
merci.
Semaine prochaine. Bye bye.
Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
Comment ne pas reprendre après Jamiroquai, mon cher Laurent?
Ah,
ce serait un blasphème pour moi. Quel pied. Allez, maintenant, on est parti avec Noël Barbeau, qui nous vient de la région lilloise et qui est donc... Alors, tu es Noël, peux-tu nous dire ce que tu fais, en fait, avant d'attaquer...
Alors, les étiquettes qu'on peut me coller, c'est hypnothérapeute, c'est formatrice, c'est écrivain, conférencière, mais je crois que le plus important, c'est le message que je transmets.
D'accord.
Et que j'ai envie de transmettre tout de suite, si les auditeurs sont prêts.
Eh ben, on y va.
Pour continuer sur ce que disait Marion, à savoir que nous avons un grand pouvoir sur notre vie, sur notre bien-être et sur notre cerveau. Et ce soir, je voulais parler de l'effet Pygmalion.
Et qu'est-ce
d'abord,
donc ça
pour que chacun se rende compte de ce que c'est, revenir à cette légende. Pygmalion était un roi légendaire de Chypre et en même temps sculpteur. Et il sculpte la statue de la femme qu'il veut parfaite, idéale. Et évidemment, il y met beaucoup d'amour et il tombe amoureux de sa statue. Et bien entendu, je pourrais dire qu'elle reste de glace ou de marbre et que c'est très frustrant pour Pygmalion de ne pas rencontrer cette femme idéale. Mais il y croit tellement, il a mis tellement d'amour dans son acte, dans son geste, que la déesse de l'amour va donner vie à sa statue. Et Galatée devient femme, Pygmalion l'épouse et ensemble ils ont un fils. Et de cette légende, on a gardé cette appellation « effet Pygmalion » à chaque fois qu'une chose se produit uniquement parce que j'y crois. C'est ma croyance qui réalise automatiquement ce que je crois. On appelle ça également la réalisation automatique d'une prophétie. On l'appelle également l'effet œdipien. Alors, beaucoup de gens connaissent le complexe d'Œdipe, mais ouais, peu de gens connaissent cet effet œdipien, qui est donc un effet Pygmalion. Et si on reprend la légende d'Œdipe, on se rend compte que tout ce qui lui arrive parce que, à différents stades, les protagonistes vont croire les prédictions. Donc si on revient à Œdipe, eh bien son père Laios, roi de Thèbes, et sa femme Jocaste, eh bien vont eux aussi vouloir connaître le futur. Laios se rend à Delphes pour écouter les prédictions de la Pythie et celle-ci lui annonce: tu vas avoir un fils parricide qui va te tuer et qui ensuite va être incestueux et qui va épouser sa mère. Quand Jocaste accouche d'un garçon, c'est l'horreur dans cette famille. Le père et la mère se souviennent de cette prédiction. Et pour empêcher la prédiction de se réaliser, eh bien, ils pensent qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de se débarrasser de ce fils Œdipe. Et voilà que Laios va conduire son fils au banc, donc à l'abandon. Il n'a pas le courage de le tuer lui-même, mais il l'abandonne sur une colline. Et pour que le bébé n'ait aucune chance de s'en sortir, il va le clouer au sol et vraiment le fixer par les pieds à cette colline. Et ce bébé est heureusement trouvé par des bergers de passage qui constatent que ce petit garçon, eh bien, est vivant, mais aussi qu'il est mal en point et qu'il a les pieds très abîmés. Et ses pieds sont enflés. Et voilà pourquoi ces bergers vont l'appeler « pied enflé ». C'est la traduction de « Œdipe ». « Œdipe » veut dire « pied enflé ».
Ah bon ?
Et ils l'adoptent provisoirement, ils l'emmènent avec eux et ils le conduisent très loin et le confient à un couple également princier qui n'a pas d'enfant et qui va s'occuper d'Œdipe comme si c'était leur propre fils. Donc cet enfant, eh bien, il grandit auprès de parents adoptifs dont il pense que ce sont ses parents biologiques. Quand Œdipe, à son tour, devient adulte, il a envie de connaître le futur. Et lui aussi se rend à Delphes pour écouter la Pythie. Et là, elle lui dit: « Toi, Œdipe, tu vas tuer ton père et épouser ta mère. » Et là encore, Œdipe, eh bien, va être victime de cette prédiction. Et pour lui aussi, c'est l'horreur. Et il croit que cette prédiction s'applique à ses parents, les seuls qu'il connaisse. et il se dit que pour éviter un tel drame, il doit fuir ses parents. Et évidemment, il les quitte et il se met en chemin pour aller vers la ville de Thèbes. Et en chemin, eh bien, il croise toute une escorte et déjà à l'époque, problème d'embouteillage, qui va céder la priorité. Et les choses tournent mal et voilà qu'il y a une bagarre et les soldats essayent de tuer et n'y arrivent pas. Et c'est Œdipe qui tue absolument toute la garde, ou presque. Il y a un rescapé qui se sauve pour aller avertir la ville de Thèbes que le roi Laios, qui était dans cet équipage, a été tué. Donc voilà que Œdipe vient de tuer Laios, son père biologique, en ignorant totalement qu'il s'agit de son père. Le seul rescapé, pour ne pas avoir l'air un peu idiot, eh bien dit que le roi et toute son escorte ont été attaqués par toute une bande. Évidemment, ils ne vont pas se vanter d'avoir été battus par un seul homme. Ce qui fait que quand Œdipe arrive à Thèbes, eh bien, il apprend que la ville est en deuil de son roi, que le roi est tombé dans une embuscade de brigands nombreux. Donc il ne fait absolument pas le lien avec la propre bagarre. Et comme Œdipe réussit à répondre à l'énigme du sphinx, eh bien, et débarrasser la ville de ce monstre, on lui offre la royauté. La place est vacante et les traditions de l'époque veulent que ce nouveau roi, Œdipe, doit épouser la veuve Jocaste. Voilà comment Œdipe se retrouve à épouser sa propre mère en ignorant qu'il s'agit de sa mère. Alors après, bien sûr, il y a eu de la littérature pour parler des enfants de Jocaste et d'Œdipe et de la triste famille et de tout ce qui leur arrive en raison de ces presque malédictions. Mais cela illustre bien que tout a pu arriver parce qu'ils ont cru la prédiction, ils ont cru la prophétie et inconsciemment, eh bien, ils ont permis qu'elle se réalise. Alors à partir de là, on appelle cet effet Pygmalion tout ce qui nous arrive parce qu'on le déclenche nous-mêmes inconsciemment par nos croyances. Dans nos croyances, il peut y avoir des croyances éminemment positives, et c'est tant mieux, mais nous avons aussi des croyances négatives. Et prendre conscience que de modifier ces croyances modifie notre vie peut réellement nous aider. Alors, je vais donner un exemple d'effet Pygmalion individuel, positif, le placebo. Le placebo, tout le monde connaît, la traduction c'est « je plairai ». Et effectivement, ça plaît, un placebo, parce que ça ressemble à un médicament. C'est prescrit comme, c'est vendu en pharmacie, c'est administré comme s'il s'agissait d'une substance active pour soigner différents symptômes. Nous savons qu'en réalité, il n'y a pas de principe actif. J'ai envie de dire, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais qu'y a-t-il dans un placebo ? Il y a la croyance. La croyance de celui qui le prescrit, la croyance de celui qui le prend, qui l'absorbe. Et il faut savoir que le placebo a des vertus pour guérir de très très nombreux symptômes bien réels. Et je vais vous donner un exemple qui pourra paraître incroyable, mais que vous retrouverez, je pense que c'est dans un article de Science Vie de cet été, sur les pouvoirs du cerveau. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle le nocebo, c'est-à-dire je nuirai. C'est tout à fait le contraire. C'est quand on croit à des effets nocifs d'une substance, eh bien cette substance va réellement nous nuire. Et quelquefois, il suffit de lire les effets indésirables d'un médicament qu'on prend depuis plusieurs semaines avec beaucoup de bonheur pour d'un seul coup avoir tous les symptômes des effets indésirables. Et tant qu'on ne savait pas qu'ils pouvaient se produire, il n'y arrivait rien. Et dès qu'on sait que ça peut arriver, eh ben ça peut arriver tout de suite parce que l'on croit que ça va nous arriver. Mais dans cet effet de nuire, je vais vous donner cet exemple d'une dame dépressive qui avait décidé de rencontrer un psychiatre. Et ce psychiatre lui avait dit « Madame, je vais vous donner des antidépresseurs ». Connaissant la toxicité des antidépresseurs, ce médecin a décidé de lui prescrire des placebos, en se disant que si elle croyait prendre un antidépresseur, cela aurait un effet antidépresseur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette femme avait décidé de stocker ses antidépresseurs pour, quand elle aurait suffisamment de médicaments, pouvoir en finir avec la vie en les absorbant tous d'un seul coup. Donc cette femme a stocké, elle a stocké donc des placebos. Et puis quand elle en a eu suffisamment, qu'a-t-elle fait ? Elle a tout avalé les comprimés. Alors peut-être vous allez dire, bon bah puisque c'était que des placebos, ça ne lui a rien fait du tout. Eh bien, détrompez-vous. Elle était tellement convaincue qu'il s'agissait d'antidépresseurs et donc de médicaments qu'elle a été sauvée d'extrême justesse parce qu'on l'a retrouvée dans un coma profond. Donc c'est dire...
C'est incroyable.
Ah oui, bah ça paraît absolument inouï et pourtant c'est un fait réel. Donc croire que l'on s'empoisonne...
Ça nous empoisonne.
Peut nous empoisonner.
Bien sûr.
Bon, et d'ailleurs, à une toute petite échelle, chacun a pu vérifier que quand il avait un petit doute sur un aliment qu'il venait d'ingérer, sur un fromage qui semblait ne pas être tout à fait frais, ou peut-être un poisson qui avait une forte odeur, ou voilà. Et dès qu'un doute se produit, est-ce que ce que j'ai mangé était vraiment frais ? Est-ce que c'était bon ?
Et patatras.
Et voilà.
Eh bien, évidemment.
Et ça suffit. Et ça suffit pour avoir une indigestion, ça suffit pour être malade, ça suffit pour se tordre.
Exactement. Bon. Exactement.
Avant de poursuivre, Noël, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite.
À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invité de ce soir, Noël Barbeau. Et tout le monde est hypnotisé.
Mais moi, je deviens fou, je suis en train de faire péter le chat. Tout le monde est hypnotisé. Même notre titouille nationale qui nous écoute est hypnotisée. Et tout le monde... Noël, continue s'il te plaît.
Alors je continue. Je vous ai donné des exemples d'effets Pygmalion individuels. Mais il fonctionne également en effet collectif. Souvenez-vous, lors de la guerre du Golfe, où une rumeur qui n'avait absolument aucun fondement a fait courir le bruit qu'il n'y aurait plus de sucre et plus d'huile dans les supermarchés. Eh bien, il est évident que si personne n'avait cru cela, il ne se serait rien passé. Mais comme nous avons été très nombreux à le croire, tout le monde s'est précipité pour acheter des stocks de sucre et d'huile, et forcément la pénurie a eu lieu. Alors elle a eu lieu d'une part parce qu'elle avait été annoncée, et d'autre part parce que de nombreuses personnes y ont cru. Et c'est bien la croyance qui a provoqué la pénurie. Maintenant, ce que je vais dire peut paraître encore plus, fou. Et pourtant, c'est toujours exact. C'est que l'effet Pygmalion fonctionne par personne interposée. Alors, je vais vous donner un exemple. Et il faut que vous sachiez que l'opinion du médecin qui vous soigne, l'opinion qu'il a sur votre santé, sur votre guérison, eh bien, est extrêmement importante parce que, d'une manière inconsciente, elle influence votre santé et votre guérison. Et je vous donne cet exemple d'un médecin anglais qui lit dans une revue que un laboratoire est en train de mettre au point une molécule pour traiter l'asthme et que c'est pour l'instant en étude. Ce médecin, qui a un patient qu'il soigne depuis 17 ans pour un asthme qu'il n'arrive pas du tout à stabiliser, écrit au laboratoire en demandant s'il peut recevoir des échantillons de cette nouvelle molécule pour la tester sur son patient. Le patient est d'accord pour tester la molécule et donc son médecin lui administre les échantillons qu'il a reçus. Et c'est très très prometteur, le patient se porte beaucoup beaucoup mieux. Le médecin continue de lui donner des échantillons, mais se dit « je vais bientôt être à court d'échantillons, il faut absolument que le laboratoire m'envoie des placebos, donc qui sont censés coûter beaucoup moins cher à la fabrication, mais qui pourront être un bon leurre pour ce patient. » Le labo envoie au médecin des placebos. Le médecin dit à son patient « puisque ce traitement vous réussit, nous allons le poursuivre, mais il lui donne un placebo. » Aussitôt, le patient refait une crise d'asthme. Le médecin dit « bon, globalement, les résultats sont bons, on va quand même continuer ce traitement. » Et lui redonne l'échantillon initial. Et le patient se porte bien. Et puis, de nouveau, bien sûr sans rien dire, le médecin tente de mettre du placebo. Et de nouveau, le patient refait une crise. Et le médecin rend de l'échantillon. Et 4 ou 5 fois, le médecin tente le placebo avec toujours le même résultat. Dès qu'il administre le placebo, le patient fait une crise. Dès qu'il lui donne des échantillons, le patient va mieux. Le médecin est enthousiaste et écrit au laboratoire « Vraiment, je peux vous dire que votre molécule est extrêmement efficace alors que le placebo n'a aucun effet. » Et le laboratoire répond au médecin « Merci docteur pour vos encouragements. Sachez que depuis le début, vous n'avez reçu que des placebos. »
Ah, c'est fort ça.
Ah oui, c'est fort. Parce que le médecin, c'était sa propre croyance qui faisait que le patient avait ou non des crises d'asthme. Et je vous rappelle que le patient n'a jamais su quand on lui administrait quoi que ce soit. C'était toujours la même chose. Alors, je vous laisse méditer sur les effets que cela peut avoir dans notre vie courante. Mais je vais vous donner d'autres exemples. Et là, dans le domaine de l'éducation. Alors, un nommé Rosenthal a d'abord fait des expériences sur des rats. En prenant des rats qui provenaient tous du même élevage, donc génétiquement, ils étaient absolument identiques, mais Rosenthal les sépare. Et il prend un groupe de rats qu'il donne à ses étudiants avec un programme de dressage et leur dit « bon ben voilà, vous avez autant de temps pour leur apprendre ceci, cela et nous allons contrôler les résultats dans quelques temps ». Il prend un autre groupe d'étudiants et un deuxième groupe de rats, je vous rappelle strictement identiques aux autres, mais il les présente comme ayant été sélectionnés et d'une race particulièrement évoluée. Ceci dit, au passage, petite parenthèse, ça peut nous faire penser à certaines personnes qui, parfois, se mettent à croire qu'il y en a qui sont plus évolués que d'autres et que cette croyance a aussi des répercussions extrêmement importantes. Alors, l'autre groupe d'étudiants a, paraît-il, des rats sélectionnés et le même programme de dressage. Et au bout de quelques temps, Rosenthal vient voir quels sont les résultats. Dans le groupe des rats sélectionnés, les étudiants sont très très fiers de leurs résultats parce que 95% des rats ont réussi parfaitement le programme de dressage. Alors que dans le deuxième groupe, eh bien les étudiants à 67% n'ont rien réussi du tout et disent « que voulez-vous faire avec ces rats qui n'ont pas de capacité spéciale ?» Alors, 95% de réussite d'un côté et 67% d'échec de l'autre, ben j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Et qu'est-ce qui a changé? C'est pas les rats qui ont été persuadés de leurs compétences, c'est seulement les étudiants. Mais les compétences des rats, à l'arrivée, étaient réellement différentes. Alors, Rosenthal s'est posé la question. Là, il ne s'agit que de rats. Mais quand il s'agit d'enfants, comment ça se passe? Alors, l'expérience a été faite dans une école à la frontière du Mexique, une école américaine. Et Là, les enquêteurs ont testé absolument tous les enfants, on va dire d'une école primaire, hein, du CP à quasiment la sixième. Et on a testé leur capacité intellectuelle en mesurant pour chaque enfant le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est le rapport entre l'âge réel d'un enfant et son âge mental, ou plus exactement, l'âge mental divisé par l'âge réel et multiplié par 100. Et on va dire que quand on a 100, c'est qu'on est normal. On a un cerveau de 10 ans parce qu'on a 10 ans. Et quand on a un cerveau compétent comme à 12 ans, quand on a 12 ans, eh bien on a 100. Et on estime qu'entre 80 et 110, bah, c'est normal. Bon, bien entendu, ce quotient, il évolue puisque l'âge change et que les capacités intellectuelles, comme l'a dit Marion tout à l'heure, le cerveau est plastique, le cerveau est capable d'apprentissage. Donc, on évolue. Et bien entendu, on peut progresser, mais on peut aussi régresser. Mais voyons le meilleur des cas, la progression. Alors, ces enfants ont été testés et leur QI mesuré au début de l'expérience, puis tous les 6 mois pendant 2 ans. Des caméras ont été placées dans toutes les classes pour observer les comportements et des enfants et des enseignants. Et qu'a-t-on fait au début de l'expérience? On a dit aux enseignants, voilà, nous sommes venus faire passer une batterie de tests prédictive de l'épanouissement intellectuel des enfants. Donc vous avez bien entendu prédiction, prophétie, annonce de capacités qui vont se dévoiler dans le futur. On a dit aux enseignants, nous allons vous donner les noms des enfants qui ont le mieux réussi nos tests et dont vous devriez voir qu'ils vont s'épanouir mieux et plus vite que les autres. Mais pour ne pas changer le moral des troupes, aucune communication ne sera faite aux enfants. Aucune communication ne sera faite aux parents. Seuls les enseignants seront au courant des bons résultats, des 20% qui ont le mieux réussi. Ce que l'on n'a pas dit, c'est que ces 20% de non ont en réalité été pris au hasard, tirés au sort et ne correspondaient pas du tout au QI des différents enfants. Alors, la distribution au hasard a fait que dans ces 20% de non, il y avait effectivement des enfants qui avaient un excellent QI, des enfants qui avaient un QI très moyen, mais aussi des enfants qui avaient un QI très faible. Et qu'a-t-on vu au fil des années? Eh bien, on a vu que quand les enfants étaient très jeunes, quand les enseignants ne les connaissaient pas du tout, quand ils n'avaient aucun a priori sur ces enfants, eh bien, l'épanouissement intellectuel de ceux qui avaient été tirés au sort a été exemplaire, hallucinant. Un petit Mexicain, en une seule année, a gagné 31 points de quotient intellectuel. Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est en une année de gagner 31 points de QI, c'est énorme, énorme. Par contre, quand les enfants étaient déjà connus des enseignants, et qu'un enfant qui était catalogué, entre guillemets, par l'enseignant, comme faible, ayant peu de capacité, mais présenté comme ayant bien réussi l'épreuve, eh bien, ça semait le doute dans l'esprit de l'enseignant. Et il lui fallait pratiquement une année pour commencer à être convaincu des capacités de l'enfant. Et la première année, on ne voyait pas beaucoup de différence, mais par contre, la deuxième année, l'enfant bénéficiait de cet effet Pygmalion positif à son égard. Et au final, tous les enfants désignés par l'expérience ont tous fait des progrès plus importants que ceux dont les noms n'avaient pas été tirés. Ça veut dire qu'un enseignant a le pouvoir de faire progresser un élève quand il pense que cet élève a des capacités. Alors, je ne vous dis pas ce qui se passe dans la réalité quotidienne des écoles quand, au contraire, un enseignant est persuadé, celui-là ou celle-là, on ne pourra rien en tirer.
Oh, comme de trop, malheureusement.
Que de dégâts on peut faire.
Voilà. Et
Que de dégâts on peut faire
Au passage, j'ai juste envie de dire, puisque tout au début de l'émission, tu me demandais quelles étaient un peu mes qualifications et ce que je faisais dans la vie. J'ai beaucoup, beaucoup enseigné. Hein. Oui. J'ai enseigné et j'enseigne encore, donc ça fait plus de 40 ans que j'enseigne.
Et tu ne fais pas tes 41 ans.
Je ne fais pas. Non. Je dois dire que j'ai eu mes premiers élèves à l'âge de 17 ans. Donc ceci explique cela. Ouais. Et j'ai commencé à enseigner. Quelque part, au fond de moi, j'avais une sorte d'intuition que dans l'être humain, il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Je le savais par intuition. Et puis, ensuite, mes études de psychologie m'ont fait découvrir l'effet Pygmalion. Et quand j'ai découvert toutes ces expériences de Rosenthal et cet effet-là, mais je me suis dit, comment ai-je pu enseigner sans qu'on me l'ait enseigné ? Et je pensais à cette époque que j'allais faire autre chose que d'enseigner. Et je me disais, dommage, dommage que je n'enseigne plus, parce que si je devais un jour enseigner, je me servirais à 100% de l'effet Pygmalion. Et puis, la vie a fait que, eh bien, je suis retournée tout de suite à l'enseignement. Et quand je suis retournée à l'enseignement, qu'ai-je fait ? Ben, j'ai surtout enseigné dans des collèges de banlieue. J'ai enseigné dans les classes dont mes collègues ne voulaient pas. J'enseignais et je demandais toujours à avoir les classes avec, dans la population, j'ai envie de dire, ceux qui n'avaient pas été très favorisés par la vie et par la société et qui avaient déjà des étiquettes dont il fallait absolument les débarrasser le plus vite possible. Et connaissant cet effet Pygmalion, eh bien, ma première démarche était de convaincre les enfants eux-mêmes de leurs compétences. Après, bon, c'est du détail de connaître les techniques et les tactiques pour leur donner confiance en eux et pour transmettre l'idée qu'ils sont capables de réussite. Je peux vous dire qu'avec cette conviction qu'ils étaient capables de réussir et en leur transmettant la conviction qu'ils étaient capables de réussir, eh bien, la plupart ont réussi. Je me souviens encore de ce qu'on appelait le pédago quand l'inspecteur était dans le fond de la classe pour voir si j'étais compétente pour enseigner et qu'à la fin d'une leçon de français que je venais de faire avec une classe de 5e qui en réalité est une classe de 5e transition, c'était la 5e E de l'établissement, l'inspecteur m'a félicité sur cette leçon où les élèves avaient été vraiment brillants. Et en me disant, félicitations, c'était une très bonne classe, une très bonne leçon, c'était très très bien. Et en précisant à la fin, mais madame, il faut dire aussi que vous avez eu la chance d'avoir la meilleure classe du collège. Et là, je vois encore la tête du principal du collège qui savait qu'il s'agissait de la dernière section de 5e, ceux qui n'avaient même pas droit à l'appellation normale de 5e. Et moi, d'entendre que c'était les meilleurs du collège et que j'avais eu de la chance, j'ai répondu à l'inspecteur, si vous le dites, monsieur l'inspecteur, c'est que c'est vrai. Et je confirme qu'effectivement, bon, je ne connais pas tous les autres, mais peut-être ce sont les meilleurs.
Eh ben, Noël, une petite pause musicale et on se retrouve.
Écoute, il casse encore l'ambiance, lui. Hein.
À tout de suite.
J'arrive sur le chat, à tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
De retour dans Enquête spirituelle.
Spirituelle, oui, ne me mets absolument pas. Voilà. Il me coupe le chic. Hein,
j'ai pas le temps de tout lever. Hein,
c'est tu ça. Coupes, tu casses l'ambiance. On a Noël, tu mets des musiques. Moi, je vais sur le chat, il n'y a pas un cas sur le chat à part la titouille. Et on se demande où ils sont passés. Et donc, eh ben, ce qu'on fait, hein, eh ben, on repart dans l'effet Pygmalion avec Noël Barbeau.
Juste avant, Amy rappelle les coordonnées.
Vas-y,
pour ceux
Amy,
qui veulent peut-être poser une question.
On veut t'entendre.
Aussi à
tu nous
notre invité ce soir.
Tu nous as attaché ta cascade de
alors,
cheveux.
Alors, sur notre
ce soir.
Site internet, oui, j'ai attaché.
Attends, j'arrive, je vais détacher ça. T'as coupé ?
Un petit peu.
Ah ouais ? Ah bon ? On peut
bon,
voir.
On s'en fout.
Non, vas-y, monte d'abord.
Non.
Tu diras pas les coordonnées tant qu'on n'a pas vu. Alors, Noël, vas-y, c'est à toi.
Non, je rigole. Bon, le site www.enquête-mon-suffit.
enquête-spirituel.com. Vous avez la rubrique contact. Vous pouvez nous contacter directement.
On est sur MaxFM, pas contact.
Oui. Vous avez le site de la radio, maxfm.be. Vous pouvez nous trouver donc sur le chat et la vidéo en ligne. Et vous pouvez nous contacter par email info@enquête-spirituel.com.
Et une question peut-être par téléphone aussi?
Oui.
C'est le téléphone, il sonne pas là, la poste, c'est quand même
bizarre.
Mais
tant mieux, on n'est pas dérangé.
Oh, belle maman.
Ça s'est lancé, voilà. Oh. Non, c'est pas pour ça.
Faut appeler.
Non, pour la Belgique, c'est le 068 480 551.
Oh, le pavé dans la mare. Voilà, la prochaine réunion de famille, je voudrais pas y être.
Oui, il y a de l'ambiance.
Pour nos amis français, 0032 68 480 551.
Voilà, j'espère que tout le monde a tout compris. Si pas, vous réécoutez en podcast et vous rebobinez.
Voilà. Le podcast, il ne va pas être en ligne avant 3 jours.
Ah, bah, ça sera, on suffit de réécouter. Là, ceux qui nous écoutent en podcast, ils nous écoutent maintenant, à l'instant présent.
Voilà.
On les salue d'ailleurs.
Oh,
on est presque à 30 000 téléchargements d'ailleurs. Voilà.
Oh, Dieu, magnifique.
Allez, de retour dans la bonne humeur. Avec
dans la bonne humeur,
Noël
nous
qui se demande qu'est-ce qui se passe.
Donc, vous vous doutez que cet effet Pygmalion, bah, ça signifie tout simplement que quand on colle une étiquette à quelqu'un, quelle que soit cette étiquette, eh bien, la croyance va s'installer que telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça, et l'étiquette va forcément transformer celui qui porte cette étiquette. Donc, dans la vie, j'ai envie de suggérer, quand une étiquette vous va bien, quand elle vous rapporte du positif, eh bien, conservez-la, cultivez-la, et puis épanouissez-vous avec cette étiquette d'intelligent, de débrouillard, de tout ce qui est positif. Par contre, si on vous a collé une étiquette de nul, d'incapable, et que vous ayez peut-être vous-même cru que vous étiez nul ou incapable, eh bien, dès aujourd'hui, enlever cette étiquette,
non, oui.
Car de toute façon, elle est fausse. Et je voulais simplement rappeler que, par exemple, beaucoup de gens disent « Ah, je suis incapable de... » ou « J'ai des difficultés en maths » ou « J'ai des difficultés en ceci ou cela ». Et rien que ces deux mots-là, « capacité »,« difficulté », distinguons-les pour se rendre compte d'une chose. C'est que les capacités, c'est très positif, tout le monde en a. Elles sont à l'intérieur de nous, c'est notre potentiel. Et comme le disait Marion, ce cerveau, il a un énorme potentiel. Alors les capacités sont dedans. Et il faut toujours les garder à l'intérieur de soi. Je compare souvent ces capacités que nous avons tous et toutes à la roue de secours et au cric que chacun a dans sa voiture. Quand nous partons en voiture, nous prenons soin de laisser à l'intérieur et la roue de secours et le cric, qui sont nos capacités à nous débrouiller si sur la route il y a une difficulté qui se présente et qui s'appelle une crevaison. Mais bien évidemment, si je laissais le cric et la roue de secours dans mon garage avant de me mettre en route, je serais bien ennuyée sur la route s'il y a une crevaison. Eh bien, les capacités, gardons-les à l'intérieur. Ainsi, ça nous permet de faire face si, sur le chemin, il y a une embûche, une difficulté. Mais j'ai connu pas mal d'enfants, de jeunes pré-ados ou ados, qui se retrouvaient avec de mauvais résultats scolaires parce que simplement leur croyance était qu'ils étaient nuls, incapables, qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Et rien qu'en modifiant leurs croyances, rien qu'en leur disant, avec conviction bien entendu, qu'ils ont des capacités, que ces capacités sont en eux, et que s'ils vont en classe avec cette conscience d'avoir des capacités à l'intérieur, eh bien ils vont réussir. Et en éliminant leur ennemi numéro un, qui, vous le savez bien, est la peur. La peur, c'est aussi une croyance. Et
Une triste croyance.
Tout à fait.
Triste croyance.
Et qui a des conséquences extrêmement négatives.
Terrible.
La peur, bien sûr, la vie nous l'a enseigné parce que la vie comporte des dangers. Et quand nous avons frôlé le danger, effectivement, nous pouvons dire « Ah, j'ai eu peur ». Mais tout de suite après, l'enseignement, c'est prudence, prudence et vigilance. Juste une bonne dose. Bien entendu qu'avant de traverser une rue, je regarde des deux côtés si le chemin est libre. Bien entendu que quand je conduis ma voiture, eh bien je suis attentif, vigilant et prudent. Et ça suffit pour que tout se passe bien. Après, un excès qui n'est plus de la prudence, qui devient de la peur, a des conséquences négatives. Donc, vraiment, j'insiste ce soir pour dire à tous ceux qui nous écoutent que leur vie, eh bien, va être à l'image de ce qu'ils croient de leur vie. Mais que s'ils ont toujours cru que c'était du négatif, eh bien, que le passé ne prédit pas le futur. Ce n'est pas parce que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ou 60 parfois, j'ai cru à certaines choses et qu'elles se sont réalisées, que mon futur va ressembler à ce que j'ai déjà connu. Il suffit qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je change ma croyance et j'en ai le pouvoir. Si je change ma croyance aujourd'hui, eh bien, dès aujourd'hui et dès demain, je récolte une autre vie en fonction de ma nouvelle croyance. Et ça, c'est extrêmement important de s'en rendre compte. Et quelque part, c'est très logique. Prenons un agriculteur qui a mis pendant 40 ans du maïs sur son terrain. Pendant 40 ans, il a récolté du maïs. Mais s'il décide de tout labourer, et s'il décide d'ensemencer et de mettre du blé, eh bien, il va récolter du blé. Tout ce que nous croyons, nous le récoltons. Et c'est extrêmement logique. Mais je voudrais que nos auditeurs se rendent compte de la puissance de ces croyances et aussi du fait que tous ceux qui nous entourent ont aussi un pouvoir sur ce qu'ils pensent de nous et que, quelque part, ce qu'ils pensent de nous inconsciemment agit sur nous et que nous communiquons d'inconscient à inconscient. Alors, veillons à communiquer des pensées positives. Et quand nous regardons quelqu'un, regardons-le, comme le disait tout à l'heure Marion, avec de la compassion, avec de la paix dans le cœur, avec des sentiments positifs pour cette personne. Parce que ça n'est qu'avec des sentiments positifs qu'on va aider l'autre et non pas avec des sentiments négatifs.
Tout à fait, c'est vrai que c'est la pensée positive est très importante.
Extrêmement.
Si tout le monde pourrait penser positif, je crois que ça arrangerait beaucoup de choses.
Le monde irait beaucoup mieux.
Ouais, c'est sûr. Je propose une petite pause Noël et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.
On vient d'en avoir une.
Ah non, et on y va.
Mais non, la dernière elle était à 7.
Une petite pause et à tout de suite.
Enquête spirituelle, chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
Ah, c'est à moi de relancer.
Yes.
Pourtant, il n'y avait pas de Jamiroquai juste avant, mais ce n'est pas grave. Bon, on n'a toujours pas eu d'appel entre... là, il y a quelques instants, mais ce n'est pas grave, puisque nous allons enchaîner, ma chère Noël, et puisque on nous a fait une remarque avec les micros positifs. Et c'est sérieux ce que je dis.
Alors, en fait... Je pense que nous pouvons dire à tous nos auditeurs que les microbes, il y en a partout, des millions, et heureusement, ils nous sont bien utiles. Les virus, c'est la même chose. En fait, l'être humain, il vit très pacifiquement avec des tas de microbes, de virus. Et c'est le message que je veux faire passer. Parce que nous venons de dire que la peur, c'était notre ennemi, et que dès qu'on se met à avoir peur, des microbes et des virus, eh bien, j'ai envie de dire, c'est là qu'ils nous attaquent. Il suffit, en fonction de l'effet Pygmalion, d'annoncer qu'il y a une épidémie pour que les gens attrapent la fameuse épidémie. Quand on ne sait même pas qu'il y a une épidémie là où on passe, il y a très, très, très peu de chances d'être contaminé par quoi que ce soit.
Oui, bien sûr.
Alors, je vais vous donner un exemple, toujours d'effet Pygmalion, peut-être vraiment incroyable. Et pourtant, ce sont bien des personnes qui voulaient montrer que cet effet Pygmalion fonctionne, qui ont fait ce genre d'expérience. Voilà l'expérience en question. Dans différentes prisons françaises, un peu sur tout le territoire, on a dit à des prisonniers, voilà, il y a des cellules qui ne sont pas occupées depuis de nombreuses années en raison justement des épidémies que la prison a connues et en raison du nombre de morts qu'il y a eu dans ces cellules. Alors, je n'ai plus les données exactes, mais peu importe. Admettons que dans le Nord, on dise là, c'était la tuberculose qui avait fait des dégâts, que ailleurs, on disait c'était le typhus. Peu importe dans quelle ville, dans quelle prison, quelle maladie. Mais plusieurs maladies contagieuses ont été présentées et pour chaque prison, la maladie contagieuse en question. On a demandé aux volontaires de réoccuper ces cellules qui, depuis fort longtemps, n'avaient plus d'occupants. On leur a dit qu'il y a surpopulation carcérale, on ne peut plus se permettre de ne pas utiliser toutes les possibilités de l'établissement. Par contre, comme il est vrai que ces cellules avaient connu des morts, on ne les avait pas utilisées pendant un certain temps. Mais maintenant, nous nous engageons à véritablement les désinfecter et à ce qu'elles présentent toutes les garanties sanitaires. Et les volontaires, moyennant quelques petits avantages, eh bien, sont invités à aller occuper ces cellules. Donc, bien entendu, dans toutes les prisons de France, il y a eu des volontaires pour aller occuper ces cellules jusque-là désaffectées. Et qu'a-t-on remarqué ? On a remarqué que dans la prison où on avait annoncé qu'autrefois il y avait eu des cas de tuberculose, eh bien, de nouveau, parmi ceux qui occupaient ces cellules, il y a eu des nouveaux cas de tuberculose. Là où on avait dit qu'il y avait eu de la typhoïde, il y a eu de nouveau de la typhoïde. Là où on avait annoncé encore une troisième maladie contagieuse, de nouveau, il y a eu la même maladie contagieuse. Alors vous allez peut-être dire, c'est qu'on n'avait vraiment pas bien désinfecté. Pas du tout, du tout, du tout. Dans tous les cas, tout était bidon. Jamais il n'y avait eu la maladie. Jamais il n'y avait eu de décès. La plupart des cellules étaient tout à fait des cellules complètement neuves qui n'avaient jamais eu d'occupants. Ce qui montre que quand on annonce qu'il y a possibilité dans un tel endroit d'attraper telle maladie, n'importe qui le croit, peut contracter la maladie que l'on vient d'annoncer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où ça va.
Oui, si, c'est justement, ça va loin. Quoi. Oui. C'est là qu'on voit dans ce que le monde tourne en ce moment, c'est tout ce qui est les médias. Oui. Si les médias vont annoncer quelque chose, les gens, comme la plupart des gens regardent la télé ou écoutent la radio, oui. Ça y est, c'est parti, quoi, ça se propage.
Alors bien sûr, je suppose que dans les auditeurs, auditrices, il y aura des gens du corps médical qui diront « Attends, c'est pas possible, c'est pas si simple que ça, les virus, ils existent vraiment, les microbes existent. » Bien entendu qu'ils existent. Ils sont partout, partout, partout. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que nous en tombions malades. Nous pouvons vivre pacifiquement avec tout ça. D'ailleurs, j'invite aussi à réfléchir.
D'ailleurs, si les peuples vivaient pacifiquement, il n'y aurait pas de guerre.
Tout à fait.
Voilà. Ouais. Alors pourquoi on ne pourrait pas vivre pacifiquement avec les microbes ?
Tout à fait.
C'est nous qui le voulons.
Oui. Et bien entendu que quand il y avait beaucoup moins d'hygiène et quand il y avait beaucoup plus de misère, il y avait aussi plus d'épidémies. Ce que l'on appelait épidémie. Mais si on pense, par exemple, au choléra, à la peste, eh bien, remarquons aussi que si pratiquement les populations étaient décimées, comment se fait-il que souvent des prêtres ou des religieuses dévouées et qui consacraient tous leurs soins au contact de tous les pestiférés, pourquoi n'étaient-ils pas les premiers atteints ? Pourquoi souvent étaient-ils ceux qui passaient au travers de la maladie ? Moi, je pense que leur foi, bien entendu, et leur croyance que leur vie était précieuse pour aider les autres, eh bien, les rendait beaucoup plus solides et beaucoup plus aptes, justement, à garder la santé, alors que tout le monde mourait autour d'eux. Bien entendu, je ne dis pas que parmi ceux qui soignaient, il n'y en a pas eu aussi qui ont succombé à la maladie. Mais ce qui peut se comprendre également, parce qu'il y a de quoi décourager n'importe qui, quand on voit que malgré tous les soins apportés, parfois il y a un sentiment d'impuissance. Et il peut y avoir beaucoup de fatigue chez celui qui soigne. Il peut y avoir beaucoup de découragement. Et cette foi qu'il avait en aidant les autres, avec le temps et avec les résultats, je veux dire, on peut également comprendre que sa foi puisse s'atténuer et qu'il puisse à son tour devenir fragile et, comme les autres, succomber. Mais je crois vraiment que tout ce qui nous anime du point de vue de nos croyances, et quand je parle de croyances, on peut aller jusqu'au mot foi, ce à quoi je crois a beaucoup, beaucoup d'importance. Et si je vais un peu plus loin, eh bien, je peux également dire qu'il a été constaté que la prière, qui est un acte de foi par excellence, qui est une pensée positive par excellence, a un pouvoir incontestable. Et pour ne citer que Marie Lebrun, qui a créé des groupes de prière, et que les groupes de prière qui s'inspirent de Marie Lebrun existent toujours de par le monde, eh bien, on constate que quand des gens se réunissent pour collectivement avoir la même croyance dans la santé, le même espoir, et envoyer les mêmes intentions positives de guérison, eh bien, celui qui ne le sait même pas que l'on prie pour lui, eh bien, il le capte inconsciemment, et les médecins constatent au même moment des améliorations tout à fait spectaculaires. Donc, de toute façon, je veux dire, tout le monde a gagné à être dans la croyance positive, dans l'espoir et dans ses pensées toujours positives.
C'est très intéressant. Thomas ne dit rien. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Andy.
Enquête spirituelle, chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle, et ce soir on parle de l'effet Pygmalion avec notre invité Noël Barbeau, et on parlait hors antenne justement que ça peut toucher aussi les sportifs.
Tout à fait, et justement, alors je n'ai pas le nom de l'athlète, mais nos auditeurs et nos auditrices qui peut-être ont meilleure mémoire ou sont plus intéressés dans ce domaine, eh bien peut-être nous communiqueront le nom que je ne peux pas donner. Mais pendant, je crois qu'il s'agissait du 100 mètres ou du 100 mètres haies, il y a eu un champion du monde qui, il y a de ça, je dirais une quarantaine d'années, a pulvérisé complètement le record. Et quand il a été donc titulaire de ce record mondial, eh bien, il a créé une stupéfaction vraiment générale. Et les paroles qui ont été dites à ce moment-là, c'est « Oh, c'est le record absolu !» Plus personne ne battra jamais ce record, ce qu'il a fait, personne ne pourra le refaire. Et comme il y a eu cette prédiction, elle a fonctionné pendant 30 ans. Il a été le détenteur de ce record pendant une trentaine d'années.
Le
100 mètres ou 100 mètres haies, je ne saurais plus dire. Enfin, ouais. Bon, c'était... Ouais. Voilà. Et que se passe-t-il 30 ans plus tard ? 30 ans plus tard, un athlète vient battre le record imbattable. Alors vous allez me dire, bah oui, hein, il fallait bien s'y attendre tôt ou tard. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que dans les 3 semaines qui ont suivi ce nouveau record, une dizaine d'athlètes ont égalé ce nouveau record.
Ouais.
Alors, là encore, pourquoi pendant 30 ans, oui, le record n'était pas battu? Pourquoi d'un seul coup, quand il est battu, 10 en font autant? Ben, tout simplement parce que quand une personne réussit, c'est la preuve que d'autres peuvent réussir.
Voilà.
Et ça crée un effet Pygmalion renforcé. Et je crois que c'est la même chose aussi dans le domaine de la santé. Quand on dit qu'une maladie est incurable et qu'un beau jour on annonce qu'une personne a guéri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont la même maladie peuvent guérir. Et ça entraîne d'autres guérisons. Et je pense aussi aux greffes de cœur. La première greffe du cœur où un greffé du cœur vit et continue de vivre des années avec son cœur. Ça veut dire à tous ceux qui vont être greffés qu'ils peuvent continuer à vivre pendant des années. Et ça crée des effets Pygmalion et ça crée des nouvelles croyances et ça crée des réussites. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment toute la technique qui a été prise en compte. Mais je pense que le fait de croire rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie à la vie et beaucoup de résultats positifs. Et je pense à tous les sportifs, tous ceux qui sont de haut niveau. Eh bien, ils ont toujours eu cette croyance par rapport à eux-mêmes qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils arriveraient les premiers. Et leur croyance leur a en quelque sorte donné des ailes pour aboutir. Et je crois que quand on écoute parler des champions ou des futurs champions, eh bien, on pourrait presque faire des pronostics de qui va monter sur le podium avec la médaille d'or, qui avec la médaille d'argent, en fonction de ce qu'ils disent et en fonction de leurs croyances. Alors là encore, je n'ai pas le nom. Si jamais il fait partie de nos auditeurs, il a encore le temps de rectifier d'ici les Jeux Olympiques de Londres. J'ai entendu un sportif qui avait été élu, je ne sais pas, par les fans, le meilleur sportif de l'année, etc. Bon, et il a été interviewé par une radio et on lui demandait ce qu'il pensait d'avoir été comme ça, choisi et sélectionné et représentant le meilleur sportif de l'année. Et ce qu'il en pense pour sa participation aux futurs Jeux Olympiques. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en moins de 2 minutes d'interview, ce sportif a employé 3-4 fois le verbe décevoir. Qu'il ne voulait pas décevoir, qu'il allait tout faire pour ne pas décevoir. Et je me suis dit, ah là 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 là, dommage que je ne puisse pas lui répondre instantanément, qu'en partant avec l'idée de décevoir, je ne vois pas que la médaille d'or. Mais je l'invite, s'il nous entend, à rectifier son discours et sa croyance. Parce que comme il a été choisi, sélectionné, apprécié pour ses capacités, pour ses compétences qui font qu'il est un champion, eh bien qu'il garde la croyance qu'il est un champion, qu'il est un futur champion et qu'il est fier d'avoir été choisi et qu'il veut toujours être fier et que ses fans puissent être fiers de son succès et de sa future médaille d'or.
Moi, je vais te faire rebondir sur autre chose. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci, aucun problème, il va y arriver. Je sais que ça va te faire bondir.
Eh bien oui, parce que...
Ah, que dis-je?
Oui, très très souvent, après m'avoir entendu, certaines personnes me répondent, quand je leur dis, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour ceci ou cela ou telle date? Et on me répond,
pas de problème. Pourquoi il y aura un problème?
Bon, alors n'en mettons pas quand il n'y en a pas.
La conférence qu'on a fait ensemble, d'abord Rémi et Laurent, ils étaient là. Combien de fois j'étais sur le côté et tu m'as repris? Depuis, je peux te dire que le message est bien passé.
Eh bien, j'en suis
très
contente.
Il y en a qui nous écoutent et qui pourraient le témoigner.
Très bien. D'ailleurs, une enseignante m'a téléphoné 3 semaines après une de mes conférences et elle me dit, je veux vous remercier parce que avec mes élèves, je vois une très très nette différence. Mm-hmm. Elle me dit, depuis que je vous ai entendu dire qu'il ne fallait pas employer de mots négatifs, elle dit, moi qui disais toujours à mes élèves, n'oubliez pas, et bien évidemment, ils oubliaient, elle dit, maintenant je leur dis, souvenez-vous, rappelez-vous.
N'hésitez pas.
Et elle voit un résultat très très nettement différent.
Bien sûr.
Ce qui est très très logique. quand on sème des carottes dans son jardin,
ou
on
alors
récolte
un mot
des
aussi,
carottes.
Je peux entendre toi. Je vais essayer de le faire, mais n'essaye pas, fais-le.
Voilà.
Mais fais-le.
Oui, oui, oui.
Ah. Alors je sais pas si ça rebondit par rapport au sujet de l'émission de ce
tout
soir.
Tout à fait, tout à fait.
Mais c'est important.
Tout à fait, parce que bon, toutes nos croyances entraînent notre réalité et nos croyances commencent dans nos pensées, dans notre langage, dans notre façon de nous exprimer.
Exactement.
Donc, commençons par employer le vocabulaire qui va avoir des effets positifs. Et oui, oui, je veux bien qu'on dise que c'est de la méthode Coué, parce que hommage à Émile Coué, qui a toujours eu une parole enrichissante, satisfaisante, prometteuse, constructive et qui a toujours donné des résultats positifs. Donc je rappelle la formule presque magique d'Émile Coué. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Moi, je ne vais pas de mieux en mieux, là.
Mais si, mais si.
Je positive et je suis convaincu qu'avant la fin de l'émission, je ne tousse plus. Voilà.
Voilà.
Ah, alors je reprends.
Eh ben voilà, je me suis
pas là. Mais évidemment, parce que si tu dis que tu ne tousses plus, ton inconscient a enregistré tous et même plus.
Ouais. Ouais. Non, je suis déprimé.
Je vais bien.
Je suis déprimé.
Non, non, je ne veux pas entendre.
Mais je fais exprès pour que tu rebondisses. Je fais exprès pour que tu rebondisses en même temps que tu passes le message.
Crois-moi, j'ai des capacités à rebondir. Bon.
Parce que je vais pas bien depuis ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Hein. Oh, tu oses pas le rebondir.
J'aime entendre. Je vais pas bien.
Voilà.
Parce que l'essentiel, c'est bien.
Voilà.
Bien sûr, c'est encore mieux de dire je vais bien.
Ouais. Il y a au moins un mot positif dedans.
Tout à fait. Et sachez qu'il vaut mieux dire ce n'est pas facile plutôt que de dire c'est difficile.
D'accord. Ok.
Toujours
parce qu'il y a une connotation positive
dans facile.
D'accord, ok. Ouais.
C'est une petite gymnastique, mais tellement rentable.
Oui. Alors prenez note de ce que dit Noël, parce que. Enfin, prenez note pas forcément
souvenez-vous.
Sur un. Souvenez-vous.
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 Oui.
Tout simplement. Et votre cerveau.
Oui.
Souvenez-vous qu'il a une capacité d'enregistrer 20 milliards d'infos secondes. Alors, tout est possible.
Mais c'est vrai qu'on en parle, mais j'écoute très très souvent les émissions de radio généralistes.
Oui.
Parfois, je m'arrache les cheveux. Déjà, il m'en reste pas beaucoup, mais là, je m'arrache les cheveux. Ouais. Enfin, Laurent, il n'a plus, lui, mais... Et Amy, elle en a coupé la moitié, elle n'a plus de cascade. Donc voilà. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut entendre comme parole à connotation négative?
Oui. Et hélas, il y en a beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Mais chacun a le pouvoir de mettre sa petite goutte d'eau positive, là, même si c'est dans un océan. Tout ce que nous faisons à notre échelle a déjà de l'importance.
Voilà. On fait les photos qu'on mettra sur le site. Voilà, on vous invite à aller voir www.enquêtespirituelle.com avec un tiret. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
De retour pour cette dernière partie de cette émission Enquête spirituelle. On en est encore avec notre invité, bien évidemment, Noël Barbeau. Et on va clôturer sur l'effet Pygmalion et en dire un peu plus sur toi, Noël.
Eh bien, donc, juste pour conclure, de rappeler que tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous croyons va avoir l'effet d'un programme et va se réaliser dans notre vie. Donc, pensons positivement. Si nous devons coller des étiquettes à qui que ce soit, eh bien, ne collons que des étiquettes positives. Et cet effet Pygmalion, j'en parle notamment dans le premier livre que j'ai écrit et dont il reste encore quelques exemplaires. J'ai retrouvé un fond de stock parce que le livre est presque épuisé. D'ailleurs, on ne le trouve qu'auprès de moi, on ne le trouve plus du tout dans les librairies.
Ah.
Il s'appelle « J'entends avec le cœur », avec en sous-titre « Comment guérir du passé et construire du bonheur ». Donc ça, c'est le livre qui parle le plus, le mieux de l'effet Pygmalion. J'ai écrit d'autres titres que les auditeurs auditistes pourront trouver sur mon site internet. Je rappelle que ce site, c'est www.n en minuscule, tiré sous la barre du 6, Barbeau, BARBOT.com.
Très simple.
Tout simple.
Et si on tape sur Google, Noël Barbeau, de toute façon,
on trouve.
On tombe sur votre site aussi.
Oui, oui. Et que j'ai fait quelques vidéos qu'on trouve sur YouTube, sur Dailymotion, mais qu'on retrouve par l'intermédiaire de mon site. Et donc, des petites vidéos sur différents thèmes.
Ok, et les livres que tu as écrits, donc on peut les acheter directement sur ton site?
Alors on peut les acheter,
un email,
voilà,
ou...
on peut les acheter directement sur mon site parce que mes différents éditeurs ont plus ou moins pris leur retraite et m'ont rendu les stocks. Voilà, donc je suis certainement celle qui possède le plus d'exemplaires des différents livres que j'ai pu écrire.
Eh bien, c'est parfait, comme ça il y a tous les moyens pour acheter les bouquins de Noël. Et pour te contacter, je suppose que les gens vont sur le site internet.
Alors sur le site, il y a mes coordonnées, je peux éventuellement rappeler mon numéro de téléphone qui est le 03 20 56 35 74 en France.
C'est très simple à trouver. Voilà, vous avez tout. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien, vous pouvez réécouter aussi le numéro de téléphone. En tout cas, on mettra tout, soit sur Facebook, Amy, ou alors sur notre site aussi,
c'est
internet.
Déjà fait.
Merci à tous les auditeurs, auditrices. Et puis, je me permets de leur souhaiter à cette heure-ci une très, très bonne nuit et de très, très beaux rêves.
Voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. on les fera. Alors, le programme des émissions suivantes, il y a plein de choses à dire. Il y a également des conférences et aussi notre magazine.
Alors, la semaine prochaine, on reçoit par téléphone Laila Del Monte pour la communication avec les animaux. Donc, on a contact avec cette dame depuis les États-Unis.
Voilà, on reçoit une Américaine.
Voilà.
Il va parler français, hein, on vous
oui,
rassure.
Oui, oui, en français.
On peut pas mettre les sous-titres. Hein.
Il faudrait un traducteur.
Non, c'est pas mettre les sous-titres, hein, on rassure.
Mais Laurent, il parle 15 langues, donc ça va.
Ouais, c'est bon.
Sauf l'américain.
Alors, ensuite, on a... c'est monsieur...
Christian Talchaleur.
Voilà, ce sera le 29 février, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, sur la médecine holistique.
Ça peut être très intéressant aussi. Et le 26 février, là, c'est un dimanche.
Et là, on reçoit qui? Thomas.
Qui?
Ah.
Thomas, il y a un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs sur le chat. On nous en parle quasi chaque semaine.
Les auras.
Les auras.
Voilà. Maintenant qu'à venir, Afrane.
Voilà, c'est Afrane, donc le dimanche 26 février.
J'en profite. En conférence, la veille, 25 février, à Lille, Hôtel Ibis Gare, avenue Charles Saint-Venant. En première partie, c'est Umberto Molinaro qui va parler des lieux sacrés. Et en seconde partie, c'est Fabienne et moi qui allons faire la médiumnité. Et le lendemain, donc à Frane, la salle Magritte.
C'est ça.
Ça y est, à côté de l'hôtel de ville, à Frane.
Très simple à trouver.
De toute façon, on peut le trouver un peu partout sur les sites. On peut le trouver sur le site OVS parce qu'il y en a pas mal d'OVS voilà. Qui nous écoutent, là, surtout sur Lille. Mais il y en a aussi sur OVS Mont-Charleroi.
Oui, oui.
Alors on fait un gros bisou à tous les OVSiennes et les OVSiens voilà, qui nous écoutent. Et donc, ils peuvent trouver aussi la sortie le 26 février à partir de 15h sur le site. Pas besoin de s'inscrire, hein, ils peuvent venir directement. Non. Mais ils auront toutes les infos dessus sur mon site en même temps. Hein, http://thomasmedium.com, ils auront toutes les informations. Je me suis mis d'accord tout à l'heure dans la voiture, on a vu ça avec Noël. Alors je vous le donne. Je vais faire une conférence chez Noël Barbeau le 14 avril. Elle est située à rue Roger Salengro à Lille LM. Je crois que c'est au 82. J'en suis plus sûr. Dommage, elle est partie. Voilà, on en reparlera plus tard.
Tu mettras sur ton site.
Oui, je mettrai sur mon site. Le 14 avril, je parlerai des auras que je vais déjà parler. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris, le 26, vous pouvez revenir. Le 14 avril, je me ferai un plaisir. Et la partie médiumnique en deuxième partie. Noël, c'est quelle adresse chez toi, rue Roger Salengro?
133,
j'étais voilà. Loin du compte.
133 rue Roger Salengro.
Voilà, rue Roger Salengro. Voilà. Donc ce sera le 14 avril chez Noël à partir de 15h.
Ceux qui nous écoutent aussi en direct podcast. Ou qui nous écoutent en podcast rapidement, ouais. Jusque dimanche le 19, si je ne me trompe pas, Amy, on a fait
ça,
une petite promo pour le magazine.
Oui, les numéros 1 et 2 au prix de 10 euros hors frais de port. Donc frais de port offert.
Voilà, frais de port offert entièrement gratuit. Donc pour 10 euros, vous avez le numéro 1 et le numéro 2. Et on vous l'envoie au plus vite. Il suffit de le commander directement sur le site, donc www.enquête-spirituelle.com, et le tout au pluriel. Vous cliquez sur commander, même directement sur les petites bannières promo. Et voilà, vous avez les deux exemplaires. Et bien évidemment, le numéro 3 est toujours en vente avec Angie Vaudan, avec
Jean-Pierre Girard,
avec Thomas aussi qui a fait un reportage sur le Père Lachaise, avec plein de bonnes choses à découvrir dans tous nos magazines, car chaque magazine est différent. Voilà, plein de choses à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine avec Laila Del Monte en direct des États-Unis, et on vous souhaite une excellente soirée bien évidemment, et on salue tous les gens qui nous écoutent partout dans le monde.
Bonne soirée.
Ciao, bisous, à plus.
Bye bye.
Bonsoir.